Et cette semaine, dans ces mêmes conversations avec Daniel Haber, eh bien Blaise van der Linden avait envie de revenir avec notre ami géopolitologue sur les conséquences de l'élection de Donald Trump du triomphe. C'est ce que se plaît à dire la presse internationale de Donald Trump sur les négociations actuelles sur la diplomatie au Proche-Orient. Voici Daniel Haber au micro donc de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Comme tous les lundis, nous allons converser autour de la géopolitique mondiale. Cela fait maintenant un peu plus de 2 semaines que Donald Trump a remporté l'élection présidentielle. Israël a fait le tour de la question de son côté. Elle continue à contenir et à affaiblir ses différents fronts. Mais revenons sur cette élection de Donald Trump. Il y a une question centrale dont on a l'impression qu'on se pose de plus en plus. C'est la suivante. Faut-il plus de guerre ou plus de diplomatie? Et c'est une question qui est légitime de se poser.
Oui, non, mais c'est, vous avez tout à fait raison, c'est la question centrale. Trump, on le connaît, c'est un homme de négociation. Il estime d'ailleurs qu'il est le meilleur négociateur mondial. Il a même, paraît-il, écrit un livre que j'ai pas lu. Et donc, face à l'Iran, il est clair que toute la politique américaine depuis Obama, c'est de négocier plutôt que de faire la guerre. Donc, on voit très bien que ça se fera. La première chose, ce qu'on peut dire, c'est que Trump va prendre son temps, parce que malheureusement pour Israël, il a d'autres priorités, l'Amérique, l'Ukraine, la Chine. Donc, il va pas s'attaquer tout de suite à la négociation. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des approches. L'équipe de Trump est constituée, se constitue. Biden joue le jeu. Donc, on peut supposer, et on a des informations, que déjà des contacts sont pris par les différents membres de l'équipe de Trump avec les protagonistes du Moyen-Orient. Évidemment avec Israël où ça ne cesse pas, mais aussi avec le Hamas, aussi avec le Hezbollah et naturellement avec l'Iran. Les premiers contacts qui sont pris et ce qu'on entend sont pas optimistes. C'est-à-dire que on voit bien que en ce moment il n'y a pas d'avancée possible dans les négociations, ni avec le Hamas, ni avec le Hezbollah, ni avec l'Iran, et que donc c'est plutôt un package global qui va un jour se négocier. Je rappelle quand même que les États-Unis ont déjà négocié des accords avec l'Iran. Faut jamais oublier ça. Le premier remonte à 1980. C'était la solution des otages. Vous savez que au moment de la révolution islamique, les Iraniens ont pris en otage toute l'ambassade américaine. Il y avait plus de 50 otages qui sont restés d'ailleurs aux mains des Iraniens plus d'un an. Et Carter, quand il a été élu, est entré en négociation, a beaucoup cédé, a dû faire beaucoup de concessions pour récupérer ses otages. Et puis il y a eu 2015, où là Obama a signé avec l'Iran un traité qui s'appelle le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien. Vous vous souvenez que cet accord est un très mauvais accord, mais il avait été signé par beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, la France, la Grande-Bretagne avaient co-signé, et que Israël était vent debout contre cet accord, qui était un mauvais accord, dont Trump est sorti. Donc, s'il revient dans la négociation, Trump, c'est pour négocier un autre accord. On va pas revenir au JCPOA, qui est complètement dépassé. Presque 10 ans déjà, et depuis évidemment l'Iran a fait des progrès dans le nucléaire, et puis surtout l'accord de 2015 ne comptait aucune clause sur tout le reste, c'est-à-dire tout l'armement, les drones, les missiles que les Iraniens développent, ni tous ces efforts énorme en termes financiers que l'Iran fait pour constituer justement ces 6 fronts qui sont à la fois des fronts contre Israël, mais qui sont aussi des boucliers pour protéger l'Iran. Donc on en est, oui.
Allez-y, allez-y.
Non, non, donc on est dans une situation où Israël a affaibli les 6 boucliers, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là avec une capacité de nuisance. Et donc l'Iran est affaibli et donc elle ne va pas entrer en négociation en état de faiblesse. Donc on voit bien qu'avant d'entrer en négociation, il va se passer un peu de temps. Ce qui veut dire, pour conclure sur votre question, c'est que la guerre d'usure que subit Israël va encore continuer ben, plusieurs mois, malheureusement. Par contre, Israël a le temps de continuer à affaiblir ses boucliers, notamment le Hezbollah, mais aussi le Hamas et aussi les autres milices, y a pas d'intérêt pour le Hamas à procéder à un échange d'otages, et hélas, parce que ce qu'il demande, le Hamas, en contrepartie, est tellement excessif. Pratiquement, ce serait, après une défaite du Hamas, remporter une victoire de la négociation. Donc, aucun gouvernement ne peut céder. De même, le Hezbollah, on parle d'une négociation sur le recul du Hezbollah au-delà du fleuve Litanie. C'est ce qui aurait dû être fait depuis 2006. Ça va bientôt faire 20 ans qu'ils auraient dû le faire. Ils vont pas le faire demain matin. Donc, on voit bien que tout ça, au fond, on se dirige vers un package global où la négociation avec l'Iran va impliquer la négociation avec les six boucliers.
Justement, vous parlez de package de négociation. À quoi pourrait-il ressembler ce fameux package?
Bon, d'abord, je pense que les États-Unis voudront rassembler autour d'eux d'autres puissances pour faire le package, peut-être la Chine, peut-être la Turquie, la Russie. Je ne sais pas s'il acceptera les Européens parce qu'il n'en a pas beaucoup il a pas beaucoup de considération par eux. Et en fait, le contenu du package, puisque c'est votre question, va beaucoup dépendre de l'Iran. Quelle est la vision de l'Iran pour une négociation? En fait, le choix de l'Iran, c'est tout simple, c'est assez simple. C'est ou bien je sauve prioritairement mon régime. J'ai fait tout ça pour sauver mon régime, un peu ce que fait la Corée du Nord. Et à ce moment-là, il peut abandonner son attitude agressive et on peut obtenir par la négociation qu'il cesse d'alimenter sans cesse le Hamas ou d'autres milices djihadistes, le Hezbollah et tous ceux qui sont, toutes les milices qui sont en Syrie, en Irak et en Judée-Samarie. Il peut avoir la volonté de troquer ça contre sauver son régime. Donc ça veut dire que en contrepartie, les États-Unis renonceraient à tout changement de régime en Iran. Ça correspond assez bien à la propension de Trump de dire chacun fait ce qu'il veut chez lui, ce qui est d'ailleurs la politique aussi de la Chine, hein. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, on n'interfère pas, on n'intervient pas dans les affaires intérieures des autres pays. Si vous voulez rester sous le régime des ayatollahs, bah restez, nous ça nous gêne pas. Et donc que demandera l'Iran en contrepartie de la cessation de son agressivité, c'est évidemment une levée des sanctions. Et là, on verra comment on peut calibrer la levée des sanctions avec la preuve que l'Iran cesse d'être ce pays agressif qui, depuis 50 ans, déstabilise tout le Moyen-Orient. Voilà un petit peu le package. Et il faut ajouter que ça ne peut se faire, un éventuel traité, que s'il est beaucoup plus élargi. Beaucoup plus large que le traité donc de 2015, il faut qu'il comprenne tous les armements de l'Iran et toute sa politique de tentative de dominer le Moyen-Orient, d'imposer la loi de l'Empire perse de toujours et d'imposer surtout l'islam chiite. Bah, voilà. Et donc il a intérêt, Trump aussi, à rassembler autour de lui les Arabes sunnites autour d'Israël et c'est toute la question donc de l'Arabie saoudite.
En 2 minutes, Daniel Habert, pour conclure, quels pourraient être les obstacles à ces négociations?
Il y en a beaucoup. D'abord, il faut rappeler qu'il y a des obstacles internes. Hein. On sait que le président Raisi, qui est mort dans un hélicoptère, c'est quand même très suspect. Donc on voit bien que il y a des dissensions à l'intérieur du régime iranien. D'abord sur la succession de Khamenei, qui est malade, qui est tout jeune. Et puis surtout sur la balance de pouvoir entre les ayatollahs et les gardiens de la révolution, qui sont les vrais maîtres de l'Iran. C'est eux qui ont la force militaire et qui ont aussi la force économique. C'est eux qui tiennent le pétrole. Donc, il y a des problèmes intérieurs. Et puis sur le côté américain, il est clair que tout ça, et notamment le fait que l'Arabie saoudite rejoigne un axe sunnite qui ferait front et qui contiendrait l'Iran, qui serait la vraie garantie d'ailleurs de la sauvegarde de l'équilibre au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite exige des Américains beaucoup beaucoup de garanties de sécurité. On parle même de lancer une industrie nucléaire soi-disant pacifique en Arabie saoudite. Vous voyez, donc il y a des. Est-ce que les États-Unis sont prêts à donner tout ça? Ça, c'est la première question. Et est-ce que l'Arabie saoudite voit dans le partenaire américain un partenaire crédible. Les États-Unis ont perdu beaucoup de crédibilité. Tout ce qu'on dit de Trump, islamiste, Make America Great Again, c'est pas très encourageant pour les Saoudiens. Et donc Israël est obligé d'attendre. Il n'y a pas beaucoup de leviers pour tout ça. Et donc voilà. Et puis le dernier problème, c'est la question palestinienne. Elle est aujourd'hui au fond défendue essentiellement par l'Iran. C'est l'Iran qui a capté la cause palestinienne, notamment via le Hamas. Et donc, si on veut trouver une solution d'équilibre durable au Moyen-Orient, il faut non seulement faire un traité avec l'Iran, monter un front sunnite avec l'Arabie saoudite, mais résoudre d'une manière ou d'une autre, hein, je ne sais pas laquelle, la question palestinienne. Et donc, il faut l'extraire de là où elle est en ce moment, c'est-à-dire des mains de l'Iran, pour la remettre là où elle devrait être, c'est-à-dire aux mains des Arabes sunnites, qui sont les cousins, les frères des Palestiniens, et à l'intérieur de ça, trouver une solution dont on ne sait pas laquelle. Donc voilà un petit peu les incertitudes, vous voyez qu'elles sont nombreuses. Donc il y a pas de volonté du côté américain de faire la guerre, il y a pas de, mais il y a beaucoup d'obstacles, ça va être très compliqué, et la guerre est toujours possible, et je pense qu'en bon négociateur, Trump mettra ça sur la table en disant, bon, si on n'y arrive pas, nous, on vous attaque. Voilà, c'est donc ça sera le début de votre question, guerre ou négociation, c'est on entre dans cette période d'interrogation.
Et nous aurons évidemment l'occasion d'en parler dans nos prochaines conversations. Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.